Tes petits camarades seront là, alors si tu sais pas le texte, t'auras l'air de quoi? Allez, c'est pas grave, allons-y.
Osmose Radio, la web radio du HAF.
L'usage veut qu'on considère que les jeunes filles soient très entourées par une cour de prétendants ou bien par une famille aimante, mais hélas, on sait que ce n'est pas toujours le cas. Et notamment, c'est ne pas le cas de la dame qui est au cœur de ce spectacle, une fille sans personne, qui jouait au théâtre Al-Andalus à 10h10 jusqu'à la fin du festival, notamment par vous, Corinne Ménant. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Alors vous interprétez ce personnage, donc une fille sans personne, dont vous aurez l'occasion de nous parler aujourd'hui. Alors vous êtes au sein de la compagnie Insolence is Beautiful que vous avez fondée. Et à côté, il y a Frédéric Mélan, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc vous êtes venu donner un coup de pouce à une amie, autant qu'à une confrère, une consoeur plutôt, pardonnez-moi, une collègue saltimbanque qui aime à reprendre des thèmes parfois gravissimes d'ailleurs, sur scène, notamment durant cette dernière ligne droite du Festival of 2021, durant cette dernière dizaine du mois de juillet, puisque vous avez fait votre première représentation ce matin au théâtre Al-Andalus. Comment ça s'est passé personnellement pour vous ?
Alors j'étais très heureuse de retourner au plateau, de jouer après ces longs mois d'absence.
Oh oui.
Donc c'était vraiment une expérience formidable. Et puis retrouver aussi les émotions du track, juste avant, se libérer.
Voilà, donc un premier jet, en tout cas une entrée en piste pour quelques prochaines dates au théâtre Al-Andalus qui vous accueille à 10h10. Alors Corinne Ménant, est-ce que c'est votre premier passage au Festival d'Avignon ? Je ne crois pas vous avoir jamais vu, mais j'ai pu louper quelque chose.
Non, effectivement, c'est mon premier passage en tant que directrice artistique de la compagnie.
Ah, donc j'ai un œil de lynx, c'est vrai que je ne vous avais jamais vu.
Exactement, donc c'est une très belle aventure et j'espère qu'elle va... Il y en aura d'autres.
Et vous abordez dans ce spectacle une fille sans personne, déjà un titre qui est sans ambiguïté. Vous abordez le sujet difficile des femmes en prison, parce que quand on parle de la population carcérale, on pense surtout aux hommes qui, de fait, constituent la majorité de cette population un petit peu en marge de la société et pour cause. Mais les femmes constituent une minorité dont on parle assez peu, alors que leur situation est tout de même assez singulière. Et notamment, vous vous êtes intéressé à ce sujet-là par rapport à un texte qui vous avait beaucoup touché, d'un auteur qui s'appelle Karine Lacroix.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai découvert ce texte il y a 2 ans maintenant et ça a été un véritable coup de cœur. Donc, comme tous les coups de cœur, c'est difficile de l'expliquer. Ça vient de l'intérieur, de l'émotion. J'étais énormément touchée par le personnage principal, Iris. Et au fur et à mesure de la lecture, du travail sur le texte, je me suis vraiment intéressée à la question carcérale et ces femmes en prison où effectivement on donne très peu corps et voix au plateau. C'est ce qui m'a touchée.
Et un texte de Karine Lacroix qui a été édité en 2013, que vous avez découvert il y a quelques années, et découvert en 2019, juste avant qu'on subisse des confinements en quelque sorte.
Exactement.
Voilà, donc toute proportion gardée, parce que ce qu'on a subi nous autres dans nos appartements est loin de ce que subissent les gens dans l'univers carcéral. Faut raison garder, comme disait l'autre. Mais c'est vrai que ce texte vous a permis de mettre le doigt sur ce sujet-là. Aviez-vous eu déjà l'occasion de collaborer ou de travailler ou même simplement de discuter avec des gens qui avaient vécu de telles situations avant ?
Alors en fait, c'est au cours des quelques représentations en région parisienne et par l'intermédiaire d'une association qui réinsère les détenus dans la vie, qui accompagne les détenus après la sortie, que je me suis vraiment plongée dans cet univers. Et effectivement, ça m'a... Alors, ce n'est pas un documentaire sur la prison, mais ça m'a... D'autant plus qu'on sortait du confinement, je me suis mise à ressentir ce que pouvaient sentir les personnes qui vivent dans 2 mètres carrés, qui ne voient personne, qui sont dans des conditions terribles et qui sont privées de liberté, qu'on ne leur donne pas non plus beaucoup d'espoir pour s'échapper. Et donc ça interroge aussi bien sûr le système. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait aussi pour ces personnes-là, pour les accompagner en dehors. Voilà.
Ouvrez une école, fermez une prison, comme disait Victor Hugo il y a fort longtemps déjà. Mais c'est vrai que si le message est passé, la leçon n'a pas forcément été bien assimilée, bien qu'il y ait eu énormément d'efforts de fait. Ce n'est tout de même pas suffisant. Hein. Les instances internationales nous rappellent régulièrement que la France est un petit peu à la traîne. Et par conséquent, ça donne un univers assez dur à illustrer, et notamment au théâtre, comme vous le faites. Par rapport à ce texte de Karine Lacroix, alors que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de rencontrer personnellement, est-ce qu'elle a eu vent de votre démarche malgré tout ?
Oui, tout à fait. Je l'ai toujours tenue informée de différentes étapes de travail, des certaines représentations. Elle sait que je suis ici au Festival Off d'Avignon. Elle m'a envoyé un petit mot d'encouragement, d'ailleurs. Et puis j'espère qu'on aura le temps d'échanger ensemble sur ce texte. En tout cas, elle était très, très heureuse que je le monte, puisque c'est un texte qui n'a jamais été monté. Donc, voilà, c'est une première aussi pour elle, je pense. Et j'espère qu'elle viendra voir la pièce bientôt.
Souhaitons-le, en tout cas, souhaitons-le pour vous et pour elle et pour nous autres, puisque effectivement c'est un sujet bien spécifique qui n'est pas souvent abordé, comme on le disait tout à l'heure, et que vous avez adapté. Alors un texte relativement court, soyons honnêtes, mais qui pour autant ne facilite pas forcément l'adaptation théâtrale dans son contenu. Et c'est la forme épistolaire, donc le fait que ce soit basé sur un échange de lettres principalement entre la prisonnière et une personne de l'extérieur qui vous a un petit peu, comment dirais-je, pas forcément mis le pied à l'étrier, mais qui vous a donné, comment dirais-je, une direction, un prisme d'approche, si ce n'est une direction artistique. Comment vous avez appréhendé ces difficultés-là ?
Alors c'est vrai que c'était une interrogation au début. Je me dis, mais comment je vais pouvoir mettre au plateau quelque chose de vivant pour que les spectateurs puissent ressentir ce que Iris
ressent, parce que
il s'agit
de sentiments, il s'agit de ressentis, il s'agit d'émotions, parce que vous l'avez précisé tout à l'heure, c'est pas du théâtre documentaire, c'est pas la question, il y a des très bons documentaires là-dessus, on en parlait d'ailleurs avec des invités précédents aujourd'hui, mais il s'agit vraiment d'une expérience humaine, et c'est à l'échelle humaine que vous en parlez.
Oui, c'est ça. Donc du coup, j'ai essayé de trouver un moyen pour que on comprenne que ça soit un échange épistolaire. Donc, j'ai trouvé donc du coup que comme Camille ne vient jamais au rendez-vous, qu'on pouvait la faire exister de façon en s'adressant au spectateur en fait, donc comme un quatrième mur quoi.
Sans qu'elle se manifeste en personne.
Voilà, oui. Ouais, des fois vous vous posez sur nous ce regard, d'ailleurs vous-même Frédéric, vous étiez près de moi dans le public, dans la première de matin, et des fois donc Corinne, vous posez ce regard inquisiteur et dur, alors c'est d'autant plus surprenant que vous avez un joli minois, et vous nous regardez de façon cruelle, c'est surprenant. Et donc vous nous regardez se poser un inquisiteur sur nous, sachant qu'on pourrait tous être des Camilles, donc cette personne avec laquelle la comédienne, la personnage principal de cette intrigue, Iris, correspond alors qu'elle-même est enfermée et que Camille est au dehors, qui devrait être disponible pour venir la rencontrer, mais qui trouve toujours une échappatoire.
C'est le paradoxe de l'humanité, hein. On a tous en soi le bon et l'inverse, hein. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que la dame qui est à l'extérieur, finalement, elle a un enfermement qui n'est pas juridique, mais qui est personnel, qui est lié à des problèmes qui ne sont qu'évoqués, mais qui rejoignent l'humanité. Et le lien entre elles, c'est que toutes les deux sont prisonnières et aussi libres par leur imaginaire. Mais aussi, elles échangent leur prison. On pourrait presque dire ça. La dernière lettre fait qu'elles échangent un peu leur monde, leur prison.
Oui, parce qu'il y a forcément un lien affectif qui se crée entre l'intérieur, entre la détenue et l'animatrice d'atelier d'écriture. Et bon, comme toute relation, quand il y a une personne qui ne vient pas, on se sent parfois au désespoir. Voilà. Donc c'était ça qui m'intéressait aussi, c'était cet échange entre les deux femmes. Alors je dirais pas qu'il y a dominant-dominé, mais voilà, qui est vraiment la plus libre des deux. C'est la question qu'on peut se poser.
La liberté qu'on revendique, la liberté que l'on s'approprie, la liberté qu'on se refuse aussi parfois, ce qui n'est pas forcément... Alors, Il y en a bien une qui est enfermée entre quatre murs et l'autre qui ne l'est pas. Hein. N'oublions jamais cette vérité fondamentale. Mais c'est vrai que dans la façon dont elles vivent chacune leur immobilité, en quelque sorte, elle est tout à fait différente. Et c'est ça aussi que vous mettez en lumière. Néanmoins, le personnage que vous interprétez vous-même, c'est Iris. Et c'est vous qu'on voit sur scène. Et notamment par rapport à des choix de mise en scène, comme je pense notamment au costume dans lequel on vous voit débarquer sur scène. Dans la première, lors du tout début du spectacle, quand s'ouvre la pièce, eh bien, vous avez un survêt à capuche rouge écarlate. Et là, on pense vraiment, en plus, vous êtes une petite brune, toute fine, on pense vraiment au petit chaperon rouge qui se serait égaré dans le domaine du grand méchant loup, en quelque sorte. Oui. Je ne sais pas si cette comparaison est appropriée, mais c'est vraiment l'impression, ce pourpre qui nous vient dans les rétines, c'est vraiment l'impression que vous donnez à ce moment-là.
D'accord.
Bon. Je ne sais pas
si. Non. En tout cas, c'est sûr que quand elle arrive ici, elle est complètement terrorisée, effrayée. Et bon, on comprend, je pense, que c'est pas une. Enfin, voilà, qu'elle a fait peut-être une petite délinquante. Elle a peut-être suivi son amoureux de l'époque. Voilà, elle a fait des bêtises. Mais,
souvent, d'ailleurs, des études sociologiques ont été faites sur le sujet. Et souvent, les hommes qui sont en prison, bah, ils ont voulu avoir beaucoup d'argent, ils ont voulu avoir du pouvoir, ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Les femmes, c'est dans 90% des cas des histoires d'amour qui ont mal tourné, pour aller dans le sens de ce que vous disiez.
L'enfance. Excusez-moi, vous avez un.
Pardon ?
L'enfance aussi. Manifestement, elle a eu une enfance perturbée.
Un amoureux de passage ou bien un papa qui était absent, et, oui, effectivement.
Même avant, les relations aux familles, les relations au père, à la mère, qui ne devaient pas être terribles et qui ont très souvent des conséquences sur des années, des années, des années. Oui, elle est.
Nul ne guérit de son enfance, comme disait Jacques Brel. Hein.
Oui, c'est ça.
Mais du coup, pardonnez-nous, on vous a interrompu, Corinne. Donc, c'était cet aspect un petit peu petit chaperon rouge, tel que moi je l'ai perçu, donne une forme d'innocence dont on sait qu'elle est fausse, puisque c'est une personne qui vient d'être incarcérée. Néanmoins, enfin, on suppose qu'elle est fausse, pardon pour la confusion. Mais du coup, c'est vrai que vous êtes un petit peu perdu dans un milieu carcéral extrêmement dur. Et du coup, bah, ces réalités, on finit par les appréhender au fur et à mesure du récit.
Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça aussi que, au fur et à mesure de la pièce, Iris doit rester combative. Et pour rester combative, j'ai essayé de mettre aussi du mouvement dans le corps aussi pour montrer que non, justement, elle ne veut surtout pas ressembler à ses co-détenus, qu'elle veut rester digne, qu'elle veut rester qu'elle veut sortir, qu'elle va se libérer et voilà.
Mais disons qu'il y a des portraits dans le récit qu'en fait Iris, en tout cas, il y a des portraits de, passez-moi l'expression, de peau de vache parmi ses co-détenus. Mais ça, c'est dans tous les milieux humains. Ça peut être la cour d'école pour des gosses, ça peut être une classe pour un lycéen et à plus forte raison, une cour de prison pour des détenus. Et donc, bah, forcément, on comprend qu'elle n'ait pas envie de ressembler à ça, de pas envie de s'assimiler à ça, même s'il y a des codes qu'il faut acquérir quand on est dans un milieu aussi dur. Mais il y a aussi, bah, en tant qu'être humain, puisque c'est à l'échelle humaine que vous abordez cette histoire, et aussi des besoins humains qui sont assez élémentaires, mais dont on oublie l'importance quand on les vit au quotidien. Et je pense notamment aux besoins de sensualité, à la tendresse, tout simplement.
Exactement. C'est vraiment cette solitude que l'on ressent chez Iris. Donc ce besoin d'affection, ce besoin d'être touchée, tout simplement, d'être caressée, d'être vivante, parce que bon, bah, ça passe aussi par ça, le corps c'est très très important aussi, et c'est pour ça que je voulais pas en faire, justement, par rapport au numéro d'écrou où on est complètement dans l'anonymat, on ne devient plus qu'un objet. Non, Iris reste combative, veut rester une femme, et c'est ce que je voulais montrer vraiment par le poème de Caresse, voilà. Et il y a le côté aussi chez Iris, elle a un petit peu d'humour aussi, Iris. Elle est, je dis pas qu'elle est rigolote, mais voilà.
Un côté un peu dérision.
Un petit peu dérision. Quand elle dit Iris intellect, oui, elle s'énerve contre ses feuilles, etc. Voilà, je voulais. Bien sûr qu'il y a beaucoup de sensibilité, de souffrance en elle, mais je crois que, enfin, j'en ai fait un personnage pour garder encore un peu cette humanité et se rigoler pour quelque chose, une co-détenue qui a une dent qui a plu, enfin, garder ce côté un petit peu humour et touchant d'une personne.
C'est Simone Veil qui disait dans les camps où elle avait été hélas enfermée quand elle était petite que c'était en faisant des blagues ou enfin que les gens qui étaient avec elle en camp, c'était en faisant des blagues ou bien en continuant à se tailler la moustache ou se faire des tresses qui gardaient aussi leur immunité dans un environnement encore plus dur que le milieu carcéral que vous décrivez, qui correspond au camp de la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, c'est un aspect que ressentent beaucoup de gens qui ont vécu ces situations extrêmement difficiles. Mais par contre, je ne dis pas ça pour vous mettre en porte-à-faux, mais vous dites, Iris étant une demoiselle, une jeune femme, eh bien, elle a besoin de se raccrocher à ses moyens de s'approprier sa féminité, etc., pour ne pas ressembler à ses co-détenus. Par contre, pardonnez-moi, mais il me semble que c'est plus par rapport au système carcéral que par rapport aux co-détenus, parce que la réalité montre que les prisonnières, en tout cas, il y a cet exemple précis aux États-Unis, mais je suppose qu'il y en a aussi ailleurs, organisent des défilés de mode, elles se maquillent entre elles. Parfois, quand elles arrivent à trouver des atomes crochus, elles prennent soin les unes des autres. Ce n'est pas forcément la majorité des cas, j'en conviens. Mais ça existe. Ensuite, le besoin de tendresse, il est universel, il est tout simplement humain. Je ne dis pas ça pour relativiser les besoins d'une femme en particulier. Attention, ce n'est pas du sexisme de ma part. Mais j'aurais tendance à l'envisager de manière beaucoup plus globale.
Oui, c'est vrai.
À tort ou à raison.
Oui, oui, vous avez raison. De toute façon, que voilà, qu'on soit une femme intérieure ou à l'extérieur, effectivement, il y a de plus en plus de choses qui sont organisées pour elle. Mais j'avais pas pensé en fait au défilé de mode et tout ça après. Mais bon, dans le texte, en tout cas, je voulais montrer.
Non, Karine Lacroix ne parle pas du tout de cet aspect des choses.
Enfin, ah mais oui, moi je parle à l'aune de mon expérience de spectateur et de mes connaissances sur le sujet.
Oui,
je critique pas le travail de Karine Lacroix, attention.
Parce que là, ce qui se passe, c'est que cette jeune femme, bon, elle est isolée, mais les gens qu'elle est amenée à rencontrer ne sont pas les bons. On voit bien qu'il y a
un monde
qui la sépare des autres co-détenus, même si les autres co-détenus ont aussi des formes de sensualité, etc., ce ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, il y a un vrai problème d'isolement, d'expression, le ressenti n'est pas le même, les mots ne sont pas les mêmes, etc., etc.
Il y avait un Coréen, j'ai plus le nom de ce réalisateur, très talentueux pourtant, Park Chan-wook, voilà, qui avait fait un film Lady Vengeance, où justement c'était une femme dans un milieu carcéral qui, elle, prenait le parti d'être la plus gentille de la prison pour se venger de celle qui lui faisait du mal. Mais c'est une autre approche que celle de Karine Lacroix et par conséquent de la vôtre, que Rick Menant, qui interprétait ce personnage assez touchant dans ce seul en scène qui dure une heure, donc ce matin à 10h10, au théâtre Al-Andalus. Alors, une question quand même qui me turlupine, avez-vous eu un retour d'une ex-tolarde, quelqu'un qui est venu vous parler après avoir vu ce spectacle? Est-ce qu'il est peut-être encore un peu tôt? Je ne sais pas.
Alors non, j'ai eu cette expérience, effectivement, il y a un mois en région parisienne, à Montreuil. Et donc, une femme est venue me voir, et donc une ancienne femme incarcérée, et qui était en larmes, en fait, qui a vraiment... était bouleversé par le texte et qui me disait en prison c'est vraiment ça ce qui se passe, notamment les co-détenus, la violence même entre femmes qu'il peut y avoir, les matones, quand elle parle des matones, c'est pas toujours faut pas généraliser, mais en tout cas donc oui, j'ai eu cette expérience là et ça l'a beaucoup touchée, donc au moins c'est ça aussi ce que j'aimerais en tant que comédienne, c'est toucher toute la population, mais notamment les personnes qui sont sorties de prison et qui soient touchées par ce spectacle.
Leurs compliments sont votre légion d'honneur.
Oui, c'est ce qui est le plus important pour moi, le public en fait.
C'est tout ce que l'on vous souhaite et encore de belles discussions avec le public qui vient voir ce spectacle. Une fille sans personne à l'Andalus, au théâtre à l'Andalus à 10h10 tous les matins jusqu'au 31 juillet par vous, Corinne Menant. Et votre spectacle se conclut par cette sentence ô combien dure et cruelle et sans ambiguïté, la difficulté énorme de savoir ne compter pour personne. C'est assez dur comme réalité, mais vous arrivez à la transcender par l'énergie et par la volonté d'Iris notamment. Voilà, et donc ce personnage qui va me poursuivre pendant quelques temps pour ma part, je ne vous le cache pas. Voilà, chers amis, on va se quitter avec quelques notes de musique, chers amis, avec un garçon qui avait su adapter en musique et en chanson la réalité carcérale d'une femme qui était entre ces quatre cloîtrés, entre ces quatre murs sinistres. C'était Bernard Lavilliers avec la chanson « Betty ».
Tu n'as pas sommeil, tu fumes, tu veilles, et tout écorché. Et comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. La nuit carcérale, tombant sur les dalles, et ce lit glacé. Allez, venez, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ces grillages, ces portes et ces cages, ces couloirs, ces clés. Cette solitude, si dure et si rude, qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune, sur le sol allume, visage oublié. De celui que t'aimes, qui tire sur sa chaîne, comme un loup blessé. Faut pas craquer. Betty, faut pas plonger. Je sais, ils t'ont couché là. Et puis, ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Betty, faut pas trembler. Je sais, tu vas rester là. T'aimerais plus te réveiller, plus jamais rêver. Je te dis je t'aime, en ce court poème, en ce long baiser. Tu es ma frangine, juste une féminine que j'avais rimée. Je te donne ma force, mes mots et mes notes pour te réchauffer. Je hais la morale, les prisons centrales, les maisons d'arrêt. Sommeil, je fume et je veille, et j'ai composé une chanson d'amour, une chanson secours pour l'autre côté, pour ceux que l'on jette dans les oubliettes, dans l'obscurité, pendant que les gens dorment au fond du conforme sans se réveiller. T'ont couché là, et puis ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Betty, faut pas pleurer. Betty, faut pas trembler. On se retrouvera